Le coronavirus va-t-il changer le contenu de nos assiettes? Est-il à ce point déstabilisant? C'est l'une des questions au cœur d'un cycle de conférences qui s'ouvre aujourd'hui et qui va durer jusqu'au mois de mars. Ce sont les rencontres de l'alimentation durable. On y retrouve des gens de l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Des gens de l'ADEME également, l'Agence de la Transition écologique. Et l'UNESCO y participe aussi. À travers vous, Damien Connaret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome de formation et vous êtes le secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Est-ce que c'est schématique ce que j'ai dit? Est-ce que le virus va, selon vous, vraiment modifier notre alimentation?
Ah, c'est fort probable, oui, c'est fort probable. En tout cas, on le voit déjà dans les façons dont les Français se sont comportés durant la crise, durant le confinement notamment. Et on a vu effectivement un certain nombre d'impacts très clair dans la manière dont on s'approvisionne, dans la manière dont on se remet à cuisiner.
Lesquels? Donnez-nous des exemples, par exemple. Comment vous le voyez? Quels sont les signes?
Eh ben, un certain nombre de signes qu'on a vu se développer, c'est par exemple le développement du fait maison. Les gens se sont remis à cuisiner chez eux et du coup à s'approvisionner auprès de petits commerces de proximité qui ont souvent vu beaucoup de clients. Dans les cantines des restaurants collectifs étaient fermées, donc les gens se sont remis à devoir cuisiner le midi, par exemple.
Mais justement, là, c'était une contrainte. Est-ce que ce genre de comportement sera durable? Elles vont bien rouvrir un jour, les cantines. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer durablement nos comportements?
Alors ça, effectivement, c'est on peut considérer que c'est relativement conjoncturel. Par contre, des choses qui sont apparues très structurelles et qui sont apparues, pour le coup, très visibles durant la crise, et si la crise sanitaire se double demain d'une crise économique qui sera certainement structurelle, ce qu'on a vu, pour le coup, c'est vraiment une augmentation de la précarité alimentaire qui a été liée à plusieurs phénomènes. On a vu évidemment de plus en plus de gens avoir recours à l'aide alimentaire pendant cette période et on sait que ça va pour le coup continuer. Donc ça, c'est un véritable problème. On a vu aussi se révéler, et ça c'est intéressant pendant cette crise, que la situation de l'emploi dans les systèmes alimentaires, c'est-à-dire dans la production, dans la transformation, dans la logistique de transport, dans la distribution, est une situation qui est quand même assez dégradée, avec des emplois assez précarisés, et ça, c'est vraiment un élément assez flagrant qui s'est révélé. Dans la production agricole, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du premier confinement, il y avait eu un sympathique appel au peuple pour venir aider les agriculteurs pour les récoltes.
Pour ramasser les fraises.
Absolument, ou les asperges ou autres, et on s'est rendu compte qu'en fait c'est un vrai métier, saisonnier agricole, ça s'improvise pas, c'est un vrai savoir-faire, et on est apparu aussi à ce moment-là qu'en fait on a recours très largement à de la main-d'œuvre étrangère. Un tiers des saisonniers agricoles viennent de l'étranger, Maroc, Pologne, Roumanie. Et donc ça a mis en lumière effectivement la fragilité du système, ou en tout cas le fait que l'emploi dans l'alimentation est assez précarisé.
Et est-ce que
aussi dans les transports.
Est-ce que vous constatez là en France, ou ces réflexions qui sont en cours, est-ce que c'est pareil dans tous les pays du monde ou est-ce que c'est une vision occidentale des choses?
Alors ça peut être effectivement une vision relativement occidentale, c'est pas évidemment. Tout le monde n'a pas réagi de la même manière. D'abord, il ne s'est pas passé la même chose partout non plus. Tout le monde n'a pas confiné de la même manière. En tout cas, un autre élément aussi qui peut-être sera durable, c'est le recours à des circuits courts de proximité, à des circuits courts d'approvisionnement alimentaire, des circuits de proximité où les gens ont eu de plus en plus recours par solidarité pour les agriculteurs sur leur territoire, à des plateformes d'approvisionnement local, par exemple.
Mais le circuit court, ça c'est à la limite relativement possible dans un pays comme le nôtre. On a la chance d'avoir un pays agricole avec une agriculture diversifiée. Est-ce qu'on peut le développer vraiment partout, ça?
Effectivement, c'est pas le cas partout, puisqu'on voit qu'il y a évidemment, le système s'est beaucoup spécialisé. Il y a des zones du monde qui sont spécialisées dans des types de production.
Qui sont monoculture.
Qui sont monoculturels, absolument. Et donc, effectivement, on a la chance d'être un pays assez diversifié. Bon, il en existe bien d'autres, mais c'est vrai que c'est pas possible partout. Et puis, y compris en France, on n'a pas dans tous les territoires tous les types de production. Ce qui est heureux, on sait très bien que le pays s'est développé sous des formes de savoir-faire traditionnel lié à des terroirs. Et donc, voilà, le circuit de proximité, c'est aussi de la solidarité avec des régions qui sont plus lointaines. Et également, on ne peut pas tout produire en France. On sait, on commence par le petit déjeuner à se nourrir avec des produits du monde, le sucre, le thé, le café, le cacao. Donc, y compris en France, on a recours à des produits, des aliments qui viennent d'ailleurs.
Alors, circuit court, il y a aussi la problématique de l'élevage, élevage intensif. Beaucoup prônent l'élevage raisonné. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'il n'y aura plus d'élevage du tout?
plus d'élevage du tout, c'est probablement assez difficile à concevoir parce qu'il y a quand même une relation homme-animal historiquement qui est très très ancienne. Et puis il y a toujours
On a vu quand même des
des autres.
scientifiques inventer du steak, de la viande de façon artificielle, hein.
Ouais, de la viande de synthèse. Alors ça,
Ouais.
c'est effectivement, on peut très bien imaginer que ça va se développer et que ce sera opérationnel assez rapidement. Après, on peut s'interroger sur l'acceptabilité. C'est-à-dire que manger, c'est pas que se nourrir, c'est pas que avaler des protéines et des nutriments. Manger, c'est bien plus que ça. C'est se faire plaisir. Et je sais pas si on se fait plaisir avec de la viande de synthèse. Manger, c'est se relier à son environnement. C'est créer du lien social. Donc manger, c'est beaucoup d'autres choses, notamment, comme je vous disais, créer du lien social entre nous. C'est d'ailleurs ce qu'on entreverra, nous, dans une conférence qu'on va organiser le 5 février prochain. Ce sera un colloque qui sera complètement ouvert, gratuit, digital, sur l'alimentation, être ensemble. Donc on fait un petit pied de nez à la situation actuelle et
Oui.
on entreverra l'alimentation comme lien social.
Et je fais une parenthèse, effectivement, je ne l'ai pas dit, hein, de tout à l'heure, mais ces cycles de conférences qui vont être organisés, hein, jusqu'au mois de mars se font évidemment par Internet. Donc tout le monde peut le suivre sans avoir à se déplacer, évidemment, pour respecter les contraintes sanitaires. Je précise
Et
quand
ça
même,
commence ce matin.
et ça
Ça commence
commence
ce matin
ce
à
matin,
10 h.
quelles que soient les évolutions futures, hein, on a évoqué certaines pistes, effectivement, les circuits courts, l'élevage, il reste quand même une contrainte numéro un, c'est qu'il faut nourrir 7 milliards de personnes et que les humains sont de plus en plus nombreux.
Oui, absolument. Donc souvent face à ça, il y a une vision un petit peu productiviste qui considère que bon, ben voilà, il va falloir augmenter la production pour nourrir tous ces humains. Alors c'est probablement un paramètre qu'il faut prendre en compte, et notamment dans certaines zones du monde, mais certainement pas le seul. Certainement pas le seul, puisqu'on sait aujourd'hui, en tout cas qu'en matière de quantité, on a suffisamment, même plus qu'il ne faudrait pour nourrir toute la planète. Donc il y a vraiment un problème de partage qui se pose, de juste partage. Il y a aussi, on le sait, un problème dans les pertes et gaspillages, qu'on peut largement réduire, qu'il faut réduire en tout cas. Et puis, certainement aussi modifier la composition des régimes alimentaires. Là encore, dans bien des régions du monde, on consomme, on mange bien plus que nécessaire. On voit avec notamment dans certaines régions des surpoids excessifs. Donc voilà, on sait a priori qu'on a suffisamment pour tous. Maintenant, la question évidemment est le juste partage et la
Évidemment.
réduction des pertes et du gaspillage.
Merci Damien Conaré, secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Vous participez à ce cycle de conférences, les rencontres de l'alimentation durable. Vous étiez notre invité du 5-7.
France Inter.